Alors justement, cette réunification des énergies dans une même direction, est-ce que pour bien comprendre, on peut parler du centre, peut-être, comme les arts martiaux l'évoquent, le hara par exemple, et on évoquait tout à l'heure la cristallisation en soi d'un centre, est-ce qu'il y a cette idée peut-être la naissance d'un témoin, ou en tout cas une nouvelle focale sur la vie, une connaissance en deux mots?
Là aussi, Swami Prajnapad, ou Monsieur Gurdjieff, ou d'autres, Carl Friedrich Durkheim, Arnaud Desjardins, bien sûr, en parlent très clairement. Effectivement, le stade initial, c'est le stade de la machine, dont je parlais tout à l'heure, et il s'agit à un moment que naisse en nous, effectivement, ce qu'on peut appeler un centre, c'est-à-dire un point stable en nous, un point de référence en nous, qui ne peut pas être déstabilisé, bougé, emporté, modifié par les circonstances extérieures, les influences extérieures. Donc effectivement, c'est ce qu'on peut appeler un centre, si on utilise ce terme, un « je » aussi, « je », stable, d'une certaine manière immuable.
En lien avec le cœur peut-être ? Au sens traditionnel du terme ?
Forcément, en lien avec le cœur au sens traditionnel du terme. C'est pas quelque chose, comment dire, de sec et de purement intellectuel. Si ce centre intérieur apparaît, il participe forcément à la fois de l'intelligence, du corps et du cœur, du sentiment profond. Forcément.
Oui, c'est ce que vous résumez en fait dans cette maxime, connaître c'est être en quelque sorte.
Tout à fait. Connaître c'est être, c'est une parole de Swami Prajnapad. Oui. Je ne connais pas ce que je ne suis pas. Étant un peu musicien, je prends souvent des exemples musicaux. Je peux tout connaître sur la guitare, ou je peux même très bien connaître intellectuellement la composition d'un morceau. On peut m'expliquer que ce morceau est composé de tel et tel accord, de telle et telle note. On peut me décrire techniquement. Donc je peux le connaître. Donc si vous voulez, ce sera quelque chose de l'ordre, je ne sais pas, de la musicologie. Mais après, est-ce que je suis musicien ? C'est-à-dire, d'accord, je connais ce morceau, mais est-ce que je peux le jouer ? Et d'une certaine manière, dans cette image, être le morceau, c'est pouvoir le jouer, être capable de le jouer. Si je peux simplement vous le décrire en termes de notes, de rythme, de mesures, de bon, etc. À ce moment-là, je ne le connais pas vraiment. J'en ai une connaissance purement intellectuelle, livresque. Donc connaître, c'est être, et on pourrait aussi dire connaître vraiment, au sens d'être, c'est pouvoir, c'est être capable de faire. Ou d'ailleurs de ne pas faire. Bah, par exemple, tout le monde parle d'amour, amour, aimer, très bien, mais qui est capable d'aimer ? Qui est capable d'aimer son ennemi, comme le propose le Christ ? Aimer son ennemi, c'est-à-dire aimer quelqu'un que l'on ressent comme nous étant hostile ou dont le comportement ne correspond pas à ce que nous attendons, voire nous paraît menaçant, ça participe d'une capacité. Ça ne peut pas simplement être l'expression d'une bonne volonté, d'un vœu pieux.
Alors, en quoi l'objectif d'être libéré vivant est-il résolument incompatible avec l'acquisition de pouvoir ou une forme de suprématie ?
L'acquisition de pouvoir ou d'une forme de suprématie, comme vous venez de le dire, ça ne peut venir que de la volonté d'un ego qui cherche à obtenir quelque chose pour lui-même. Donc ça, c'est la voie du pouvoir, ça n'est pas la voie de la paix. Effectivement, je peux vouloir le pouvoir, dominer, régner, imposer ma volonté aux autres, être reconnu. Ça, c'est la voie du pouvoir. La voie de la paix, la voie de la communion, n'est pas compatible, effectivement, avec la voie en tant que recherche du pouvoir pour le pouvoir. Après, ça ne veut pas dire qu'un être humain avancé, ayant connu une maturation sur ce que j'appelle la voie de la paix, aura, entre guillemets, une certaine puissance, une capacité de faire, une capacité d'incarner ce qu'il est, donc certainement un certain charisme, une certaine puissance, mais après, cette puissance, qui sera une puissance avant tout de l'être, hein, ne sera certainement pas jamais utilisée pour asservir, dominer, manipuler l'autre à des fins égocentriques.
Oui, ça ne peut être que pour le bien finalement de l'autre, de l'humanité.
Ça peut être que pour servir, que pour servir, oui, effectivement. On peut parler de bien, ça peut être que pour, au service du réel, au service de l'autre, au service de l'ensemble.
Alors, si vous voulez bien, on va évoquer la personne de Gurdjieff, dont vous avez parlé à plusieurs reprises. Alors, une première question peut-être d'ordre général. Comment avez-vous découvert Gurdjieff et qu'est-il à vos yeux ?
Je n'ai évidemment jamais connu, rencontré M. Gurdjieff, qui est mort avant ma naissance, donc en 1949. Bon, il se trouve que mon père spirituel, Arnaud Desjardins, jeune, à partir de 1949, justement, avait lui-même été dans ce qu'on appelle toujours les groupes Gurdjieff, donc a été très marqué lui-même par cet enseignement, même si lui-même n'a pas non plus rencontré physiquement M. Gurdjieff. Donc, comme tout le monde, de manière très simple, j'ai eu accès à certains livres, les fameux fragments d'un enseignement inconnu, ou d'autres textes qui rapportent de manière fidèle et sûre, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses un peu fantaisistes qui sont parues depuis, qui gardent de manière sûre la trace de l'enseignement de cet homme complètement hors du commun. Beaucoup de choses ont été dites sur M. Gurdjieff, parfois des choses très négatives, à partir de différents témoignages. En ce qui me concerne, je me suis véritablement, oui, je peux dire passionné pour cet homme et son enseignement, de manière un peu irrationnelle, parce que j'ai vraiment été touché profondément dans mon cœur par les lectures que j'ai pu faire, quelques personnes aussi que j'ai pu rencontrer, et aussi par le lien entre cet enseignement et celui d'Arnaud Desjardins, et aussi du maître d'Arnaud Desjardins, Swami Prajnapada, qui lui-même était très différent dans sa forme et son style de M. Gurdjieff, mais qui avait été, d'après ce que l'on sait, très impressionné par les textes que ses élèves français lui ont montrés de ou à propos de M. Gurdjieff, à tel point qu'il avait dit que si M. Gurdjieff avait été vivant, il aurait souhaité le rencontrer, ce qui de sa part était assez exceptionnel. Donc j'étais très touché par cet enseignement, par cet homme, même si je ne l'ai jamais rencontré. Et donc j'ai dû lire aujourd'hui une cinquantaine, une soixantaine d'ouvrages, beaucoup en anglais, certains en français, beaucoup de témoignages d'élèves, notamment à propos de M. Gurdjieff. J'ai aussi eu la chance de rencontrer certaines personnes faisant partie authentiquement de sa lignée. J'ai eu la chance de rencontrer, même si c'était brièvement, donc Michel de Salzmann, Alexandre de Salzmann, le fils de Michel de Salzmann, plus récemment d'autres. J'ai rencontré récemment Roger Lipsey, qui est un Américain qui est responsable de groupe aux États-Unis et quelqu'un effectivement d'important dans la fondation Gurdjieff aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré plusieurs personnes donc reliées authentiquement à cet enseignement. Et à chaque fois, j'ai été très convaincu, très touché par ce que j'ai pu en voir, en ressentir. Bon, voilà, il y a certaines choses aussi que je partagerai pas ici, mais j'ai pu approcher certains lieux où, bon, qui portent une trace de la présence de M. Gurdjieff. Donc je suis très touché par cet enseignement. Avant tout parce que c'est ce que M. Gurdjieff appelait la quatrième voie, c'est-à-dire une voie qui est une voie qui est pratiquée au cœur du monde, dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne, sans rien exclure. Donc ça n'est pas la voie du moine ou la voie du fakir, la voie du pouvoir. C'est une voie pratiquée au cœur du monde. En ce sens-là, c'est une voie donc très proche, effectivement, de celles transmises par Swami Prajnapada, Arnaud Desjardins, ou d'autres références contemporaines, comme Karl Friedgraf Durkheim, Jacques Casterman aujourd'hui, qui continue l'œuvre de Karl Friedgraf Durkheim, entre autres, notamment, Yvan Amar, qui était aussi un adepte de la voix dans le monde. Voilà, donc j'ai été très touché par tout ce que j'ai pu approcher de cette influence. Je reste convaincu que la présence un peu mystérieuse et déconcertante de M. Gurdjieff en Occident, dans la première moitié du XXe siècle, plutôt, est une présence fondamentale qui a semé beaucoup, beaucoup de graines très importantes.
Alors, quelle était donc, selon vous, sa nature ? Est-ce qu'il était, comme il le disait, de lui-même un diable, un extraterrestre ? Et quelle était, selon vous, toujours sa fonction pour l'humanité ?
Pour moi, après, évidemment, chacun pourra à juste titre d'ailleurs, dire que ce n'est que mon opinion et que ça n'engage que moi. Ce qui est vrai, d'après tout ce que j'ai pu voir, ressentir à travers quand même une étude assez approfondie et la consultation de témoignages très précis, et pas seulement de on-dit, de ragots, et aussi d'après les personnes l'ayant rencontré, j'en ai rencontré quelques-unes encore à l'époque, je les ai rencontrées il y a un certain temps, mais à l'époque encore vivante qu'il avait connue. Je suis, en ce qui me concerne, convaincu que M. Gurdjieff était un serviteur, que c'était un homme profondément bon, animé par la compassion, et qui, d'une manière parfois effectivement inhabituelle, qui pouvait paraître brutale ou iconoclaste ou étrange, était vraiment au service de l'humanité et qui s'était donné pour mission, si on peut dire, oui, de transmettre cette quatrième voie en Occident, de ranimer quelque chose, de ranimer un courant, de ranimer un feu. Donc je crois que c'est vraiment quelqu'un de très important du point de vue de ce qu'on peut appeler la spiritualité au sens profond du terme pour nous occidentaux aujourd'hui.
Alors, quel était le sens de son message et en quoi était-il original ?
Lui-même, je crois, aurait dit que son message n'était pas original, que son message ne lui appartenait pas, c'était pas le sien, c'était quelque chose qu'il avait découvert lui-même en approchant, en étudiant dans ce qu'il appelait du terme traditionnel les écoles de sagesse. Il n'avait probablement rien inventé. Après, il avait son style. Et donc, son message, si on peut parler de message, était simplement la reformulation, en termes accessibles à l'être humain contemporain, d'une sagesse, de vérité traditionnelle, que sans doute on retrouve chez Pythagore, chez les stoïciens, chez Socrate, dans les Upanishads, ou aux origines du bouddhisme, dans d'autres courants de sagesse, certainement aux origines du christianisme, dans d'autres courants de sagesse très anciens.
Plutôt de l'ordre d'un enseignement traditionnel.
Tout à fait.
Ouais. Et alors, qui était, selon vous, Asine, symboliquement parlant, dans les récits de Belzébuth à son petit-fils ?
Je ne me sens pas qualifié pour parler de ce livre qui est un livre extraordinaire et insondable et difficile d'accès. Voilà, moi je dirais que ce livre est certainement un moyen qu'a utilisé M. Gurdjieff pour mettre en scène en quelque sorte son enseignement. Et donc, bah effectivement, dans ce livre, la figure du petit-fils, bah le petit-fils est celui à qui son grand-père effectivement fait ce récit. Donc c'est celui qui reçoit en quelque sorte la transmission. Donc c'est une forme de figure archétypale de l'élève qui reçoit une transmission d'un ancien qui incarne jusqu'à un certain point cette connaissance.
Alors, est-ce que vous pourriez nous évoquer votre compréhension de l'organe Kundabufer ? Vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure. Et des effets de sa cristallisation, toujours dans les récits de Belzébuth.
Moi, en fait, encore une fois, je me sens un peu mal à l'aise pour parler de ce livre dont je ne suis pas un spécialiste. Je dirais qu'il faut ramener ça, encore une fois, à la notion de mécanicité pour que ça devienne très simple et, en tout cas, compréhensible. Gurdjieff a été l'un de ceux qui ont le mieux exprimé, au début du siècle, la réalité de la condition humaine implacablement soumise à cette mécanicité qui fait que, finalement, Swami Prajnapada disait ça autrement. Il disait « Vos pensées sont des citations, vos émotions sont des imitations, vos actions sont des caricatures. » Swami Prajnapada, qui, quand il a prononcé cette parole, ne connaissait pas Gurdjieff, n'en avait jamais entendu parler, a dit exactement la même chose. Donc il parle de ça, de cette mécanicité, de cette emprise en l'homme, d'un fonctionnement qui le coupe de ce qu'il est véritablement, de son essence, de ce qu'il est tout au fond de lui-même.
Dernière question sur Gurdjieff, en quoi était-il diaboliquement chrétien et non pas profondément diabolique ?
Je crois qu'il était diaboliquement chrétien dans le sens où il avait parfois des moyens inorthodoxes pour secouer un peu les consciences, réveiller. Mais il était rusé, il était d'une certaine manière parfois même roublard. Mais je crois qu'on a beaucoup trop insisté par une sorte de complaisance médiatique sur cet aspect un peu apparemment scandaleux, bon, propre à controverse de Monsieur Gurdjieff. Ce qui est frappant quand vous approfondissez les témoignages, alors bien sûr, on peut dire que les témoignages de ces élèves sont forcément des témoignages en sa faveur, mais quand on voit donc le nombre de gens tout à fait remarquable, remarquablement intelligent, cultivé, beaucoup de personnes qu'on pourrait qualifier d'exceptionnelles qui ont été les élèves de Monsieur Gurdjieff, profondément touchés par lui, dont certains l'ont connu pendant toute leur vie. Ce qui ressort surtout, c'est la profonde bonté et le désintéressement fondamental de Monsieur Gurdjieff, même s'il lui arrivait de faire des sortes de comédies autour de l'argent et de pour financer ses activités, mais tous les témoignages démontre que l'argent que M. Gurdjieff pouvait récolter n'était quasiment jamais utilisé par lui à des fins personnelles, toujours réinvesti dans ses différentes entreprises au service de sa transmission. Récemment, j'ai lu, parmi tous les témoignages dont je parlais, des documents très intéressants autour de la figure du poète français René Daumal, poète bien connu aujourd'hui. René Daumal ne s'est pas seulement intéressé à l'enseignement Gurdjieff. René Daumal a mis cet enseignement au centre de sa vie pendant, si je ne me trompe, les 15 dernières années de sa vie, ou à peu près. Et si on veut se donner la peine de consulter sa correspondance, différents documents, etc., on en trouvera facilement l'épreuve. Même si cet investissement de Daumal dans l'enseignement Gurdjieff n'est pas quelque chose qui a été mis en avant par l'université ou le milieu littéraire. Daumal a étudié avec Alexandre de Salzmann, puis Jeanne de Salzmann, puis ensuite Monsieur Gurdjieff lui-même, qu'il a rencontré à plusieurs reprises. Et jusqu'à son dernier souffle, il a été totalement imprégné de cet enseignement. Bon, je prends l'exemple de Daumal parce que Daumal est le bon exemple de quelqu'un qui n'était pas un crédule, un béni oui-oui ou un naïf. C'est quelqu'un de profondément intelligent, exigeant, radical, qui ne se laissait pas impressionner par n'importe qui. Donc encore une fois, voilà, j'ai juste pris l'exemple de Daumal, j'aurais pu prendre l'exemple de beaucoup d'autres écrivains, intellectuels, hommes de science ou autres qui ont considéré que la rencontre avec Monsieur Gurdjieff et son enseignement avait été essentielle dans leur existence. Mais encore une fois, pour se faire une idée réelle d'un homme comme Monsieur Gurdjieff et de son enseignement, encore faut-il prendre la peine de se documenter réellement et de ne pas simplement puiser à des sources éculées comme le malheureux livre de Louis Poels ou autres témoignages plus ou moins de briquet de broc qui relatent souvent beaucoup de ragots, de on-dit, de réactions. Bon, si on étudie les choses plus sérieusement, quelque chose de tout à fait différent apparaît.